France Musique.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'agenda de l'été. Au programme de ce 12-13, un tour de France des concerts dans les départements suivants. Le Morbihan, la Savoie, Lyon, le Gard, le Var, le Cantal, les Bouches-du-Rhône, dans le Val d'Oise jusqu'à Budapest. À 12h15, le flûtiste François Lazarevitch nous parlera du lien entre musique celtique et musique baroque. À 12h30, une auditrice et chanteuse nous parlera de ce qu'on peut apprendre lors d'une académie d'été. Et en fin d'émission, la rubrique Embarquement immédiat nous emmène à Budapest pour un regard sur la culture musicale juive. Une petite citation pour commencer l'émission, tiens, elle est de George Frédéric Handel. Déçu, il répond à un lord qui le félicite après un concert. Mais je ne voulais pas les divertir, je voulais les rendre meilleurs. The Arrival of the Queen of Sheba de George Frédéric Handel pour débuter l'agenda de l'été sur France Musique. L'Accademia Bizantina était dirigée par Stefano Montanari. Si vous êtes dans le Morbihan, alors tendez l'oreille. Nous avons des places à vous faire gagner à la Trinité sur Mer pour un concert le 25 août, mercredi soir prochain, donc à 21h à la salle de la Vigie. Programme Chopin par le pianiste Maxence Pilchin, enfant génie devenu adulte et spécialiste reconnu de la musique de Chopin. Pour jouer, rendez-vous sur l'onglet « Contactez-nous » de la page de l'agenda de l'été sur francemusique.fr. Qui a dit « Ce Chopin est un ange, sa bonté, sa tendresse et sa patience m'inquiètent quelquefois. Il a fait à Majorque, étant malade à mourir, de la musique qui sentait le paradis à plein nez. » 1. Hélène Grimaud. 2. Camille Pleyel. Ou 3. Georges Sand. Ce sont des places pour le concert du 25 août prochain à 21h à la salle de la Vigie de la Trinité sur Mer. Précisez bien si vous voulez des places ou non dans le mail, sinon notre attaché d'émission va encore râler. Et ça, c'est bien pour personne. Un peu Tex Avery, m'a dit mon réalisateur David Travailleur. Bah oui, une mazurka de Chopin orchestrée en 1945 par Al Goodman et son orchestre sur France Musique. Dans quelques minutes, le flûtiste baroque François Lazarevitch va tout nous dire sur les liens entre musique baroque et musique celtique. Mais en attendant, direction la Savoie à Courchevel. Courchevel 1850 pour être précis. Ce soir à 9h, concert gratuit à l'auditorium Gilles de la Roque au Jardin Alpin avec une royauté du violon français, Patrice Fontanarosa, accompagnée de Stéphanie Fontanarosa, sa fille, que l'on peut d'ailleurs apercevoir très souvent au clavier avec Nemanja Radulovic et l'ensemble Double Sens. Je vous propose d'écouter Patrice Fontanarosa seul néanmoins dans la musique de Jean-Sébastien Bach, le presto de la première sonate en sol mineur BWV 1001. Forcément, quand on écrit pour un instrument seul, on est obligé de trouver des astuces pour écrire la mélodie et l'accompagnement en même temps, faire sentir tout un accord grâce à une enfilade de notes. Ça, Bach le fait très bien et Patrice Fontanarosa aussi. Patrice Fontanarosa dans le presto de la première sonate pour violon BWV 1001 France Musique, il est midi 16. Bon. Bonjour François Lazarevitch.
Bonjour Christophe.
Alors vous êtes en concert samedi prochain à l'église Saint-Germain de Vaud de Luny, du côté de Vézelay et d'Avallon à 16h. J'en profite d'ailleurs pour dire à tous nos auditeurs que tous les renseignements, toutes les dates, toutes les heures et tous les lieux mentionnés dans l'émission sont sur la page de l'agenda de l'été sur francemusique.fr. François Lazarevitch, vous serez avec vos musiciens de Saint-Julien pour un programme Purcell avec le contre-ténor Tim Mead. C'est un Purcell très choisi, vous avez joué la carte du Purcell populaire, j'ai l'impression.
Oui, en tout cas, j'ai eu envie dans ce programme de réunir des genres et des styles différents pour illustrer toutes les facettes de ce compositeur, de ce que ce compositeur nous a donné à entendre, en tout cas, ce qu'il a créé. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelques airs irlandais, enfin, à consonance irlandaise et écossaise. Mais aussi des danses à la française, des grounds dans le style purement anglais, et puis l'Italie n'est pas très loin non plus.
Alors je suis sans doute pas le seul à le remarquer, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un pas tout petit à franchir entre la musique de danse baroque et la musique de danse traditionnelle de la sphère celtique, pour rester général. Alors je vous donne le droit d'être le plus technique possible, François Lazarevitch, pour nous dire pourquoi cette musique semble si similaire.
En réalité, il y a des points communs effectivement entre ces répertoires populaires et ces répertoires anciens. Et le point commun avant tout, c'est le fait que la musique et la danse sont indissociables, au point que, par exemple, en France, au XVIIe siècle, les ménétriers étaient à la fois des musiciens et des danseurs. C'est-à-dire que ils recevaient la même formation au cours de leur apprentissage. Et auprès du même maître, qui était lui-même un maître à danser, qui était un violoniste. Et les orchestres, à cette époque, étaient remplis en réalité les violonistes dans les orchestres étaient des maîtres à danser. Voilà.
Ouais.
Et le point commun entre tous ces répertoires, qu'ils soient populaires ou qu'ils soient anciens, c'est, pour prendre une image, si on filme une danse ancienne ou une danse traditionnelle et que on la diffuse sans le son, eh bien, on est tout à fait capable, si on connaît un petit peu ce répertoire, de retrouver la musique qu'il y a dessous. Alors que si vous prenez un ballet classique ou si vous prenez encore plus une danse contemporaine, eh bien là, vous en serez incapable. Et au point que les chorégraphes contemporains, bien souvent, invente une chorégraphie et puis l'essaye sur une musique ou sur une autre. Dans le cas des danses anciennes et danses traditionnelles, c'est absolument inconcevable.
Sauf si le danseur est vêtu d'un costume de cygne, par exemple, sur scène. Alors, de savoir jouer la musique traditionnelle, ça doit vous aider dans les répertoires plus écrits de la musique ancienne, française, allemande, italienne. Ça éclaire l'interprétation et ça explique même sans doute pourquoi certaines musiques étaient écrites comme elles l'étaient avant.
Je l'espère en tout cas, et moi j'aime beaucoup parler, c'est la cadence, c'est-à-dire ce qu'on appelle en tout cas en France à l'époque baroque et puis encore aujourd'hui dans les répertoires traditionnels, la cadence, c'est-à-dire c'est cette énergie qui passe à travers la musique et qui donne envie de danser et qui fait que des gens se lèvent pour danser ou qu'ils ont envie de taper du pied en écoutant une musique. Et je trouve qu'une bonne musique de danse, c'est aussi une bonne musique à écouter. Et il est important que cette énergie passe, surtout en ce moment. On a besoin de cette énergie, c'est une vraie nourriture.
Alors on va se quitter avec la chaconne de Fairy Queen de Purcell, extrait de votre disque Purcell Songs and Dances, paru chez Alpha en 2018. Merci beaucoup François Lazarevitch.
Merci Christophe, merci. Thank you.
Une chaconne de Henri Purcell, tirée de The Fairy Queen par François Lazarevitch et ses musiciens de Saint-Julien sur France Musique. Il est 12h23, petit insert jazz dans ce 12h-13h avant d'écouter Eva, une auditrice qui a testé une académie de chant baroque à 12h30. C'est à Ramatuelle dans le Var. Demain soir à 21h, Cheikh Tidiane Seck et son ensemble vont rendre hommage à Randy Weston. Randy Weston, c'était un pianiste new-yorkais né dans les années 20, héritier de Duke Ellington et Thelonious Monk, qui a fait toute l'histoire du jazz au XXe siècle. Il commence avec un premier disque en 54 avec de la musique de Cole Porter, et puis au fur et à mesure des années 60, il laisse progressivement des éléments africains s'infiltrer dans sa musique. Le voici en 56 dans un standard de Duke Ellington, Do Nothing Till You Hear From Me, avec Cecil Payne au saxophone et Ahmed Abdul Malik à la contrebasse. Mm-hmm. Do nothing till you hear from me, ne fais rien tant que tu n'as pas eu de mes nouvelles, Randy Weston, dans la musique de Duke Ellington. Vous pourrez entendre demain soir à Ramatuelle un très bel hommage à Randy Weston à 21h au Théâtre de Verdure par Cheikh Tidiane Seck et son ensemble. France Musique, il est presque midi et demi. Tous les jours à midi et demi, nous donnons la parole aux auditeurs pour connaître leur ressenti. Comment vous vivez les concerts côté public? C'est la rubrique L'avis du public. Aujourd'hui, c'est une chanteuse en voie de professionnalisation, Eva, qui nous donne ses impressions. Alors non pas sur un festival, mais sur une académie d'été. Elle était fin août 2019 à l'Académie de musique sacrée de Lyon pour étudier le Miserere de Louis-Nicolas Clérambeau, musique française du XVIIIe siècle. Déjà, pourquoi passer ses vacances dans une académie d'été alors qu'on étudie déjà la musique durant l'année?
Je pense que les deux sont complémentaires en fait. Le prof à l'année, il nous permet de travailler notre endurance, mais entre guillemets, il voit les évolutions au fur et à mesure. Et parfois, il nous dit des choses qui vont pas faire tilt parce que la formulation, ou en tout cas, ne va pas de suite nous faire prendre conscience de ce que le prof veut nous dire. Et c'est vrai que moi, j'aime bien faire des stages ailleurs pour juste entendre une autre manière de dire les choses. Et parfois, tu comprends beaucoup plus vite alors que c'est ce que ton prof te dit tout le reste de l'année, mais le fait de l'entendre d'une autre personne, ça aide à faire avancer. Donc je pense que les deux sont complémentaires, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre à mon avis, et particulièrement voilà quand on fait des choses qui sont stylistiquement pas du tout les mêmes. Nous au CMBV, on voit beaucoup de musique baroque française, on fait très peu de musique italienne, et justement ce genre de stage, ça permet de voir d'autres compositeurs, d'autres répertoires.
Eva est au centre de musique de baroque de Versailles depuis 2 ans maintenant, et si elle maîtrise aujourd'hui les rudiments de la musique ancienne, elle a pu découvrir en 2019 certains aspects de cette musique au cours de journées bien structurées.
On avait plusieurs moments. On avait les cours avec Pierre Mervan où on avait vraiment de la technique vocale sur les pièces pour essayer de vraiment trouver un son homogène pour les solos, mais également pour la partie d'ensemble sur le Miserere, pour vraiment essayer de trouver une cohésion de son parce qu'on se connaissait pas avec les autres jeunes filles qui ont participé. Et après, on avait vraiment les moments où on a travaillé avec Alessandro Quarta, où il fallait qu'on s'adapte à l'orchestre qu'on avait et aussi au chœur, parce que du coup, il y a également des séances pour des choristes amateurs. Nous, on avait la chance de pouvoir chanter en tant que soliste, mais avec nous derrière un grand chœur et un grand orchestre. Et du coup, ça, c'était hyper intéressant parce que c'était souvent pour nous des premières expériences de pouvoir avoir ce genre d'opportunité. Ce stage-là, je l'ai fait 2 semaines avant de rentrer au CMBV. Et j'ai énormément appris par rapport à la musique italienne, parce que justement on m'a fait découvrir des compositeurs italiens que je connaissais pas du tout, tels que Bencini, Canicchiari ou Leonardo Leo. Et c'était très intéressant de voir ce genre de répertoire. Et aussi moi ça m'a permis de commencer mon parcours vers la musique baroque française avec le Miserere de Clérambeau, parce que je connaissais pas non plus avant de rentrer au CMBV, enfin en tout cas j'en avais très peu fait. Et là ça m'a permis de voir un peu ce qui se faisait pour après arriver en septembre au CMBV. MBV et approfondir encore plus ses connaissances. Stylistiquement parlant, les gens sont très connaisseurs, très pointilleux et ils t'apprennent beaucoup de choses par rapport à ce répertoire-là.
Eva, auditrice fidèle de France Musique et chanteuse baroque, qui nous explique maintenant pourquoi, musicalement et historiquement, c'est compliqué d'aborder ce répertoire de la musique ancienne comme ça, sans professeur, académie et institution, et nous livre un petit message à nous, auditeurs.
Oui, concernant l'ornementation, c'est vrai que de base, voilà, on a une partition qui est écrite par un compositeur et toute la richesse de la période baroque, en tout cas moi c'est ce que j'aime énormément dans cette période-là, c'est le fait que l'interprète peut rajouter, bien sûr tout en ayant du bon goût, comme certains traités le disent, il peut rajouter des ornements ou des notes, des diminutions pour agrémenter la musique comme lui le ressent en tout cas. Et c'est vrai que ça a été une de mes premières expériences sur un des solos que j'ai pu faire. qui m'ont beaucoup gratifiée parce que les professeurs étaient très étonnés du fait que j'ai réussi à les écrire toute seule, ce qui n'est pas toujours facile quand on n'a pas l'expérience. Pour les auditeurs, en tout cas, il faut vraiment se dire que chaque interprète va vous donner sa manière de vivre cette musique-là. Si vous n'aimez pas un interprète sur une musique, ne vous dites pas que vous n'aimez pas la musique de ce compositeur-là. Peut-être que c'est juste l'interprète, vous n'avez pas matché avec sa manière de faire, mais ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas ce compositeur. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que il y a énormément de styles différents, on est tous différents en tant qu'artistes et on apporte tous notre petite contribution à ce type de musique.
Alors, je vous propose de mettre ceci en pratique, puisque Eva a appris le Miserere de Clérambeau à l'Académie de musique sacrée de Lyon en 2019. Nous allons écouter deux versions différentes que nous allons enchaîner. Donc, tendez bien l'oreille. La première par le poème harmonique de Vincent Dumestre et la deuxième par les Demoiselles de Saint-Cyr dirigées par Emmanuel Mandrin. À vous de vous faire votre opinion selon vos goûts à vous pour reprendre Eva.
Thank you.
Deux versions du Miserere de Louis-Nicolas Clérambeau par le Poème harmonique et ensuite par les Demoiselles de Saint-Cyr sur France Musique. Il est 1h20, tout à l'heure nous lirons la carte postale du directeur des Voies Nouvelles de Royaumont qui nous décrit toute la végétation qui orne cette magnifique abbaye de Royaumont, abbaye du XIIIe siècle. En attendant, direction le Cantal pour le festival Hirondelle, festival qui fait dialoguer musique classique, baroque, contemporaine et musique d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain avec vraiment l'idée de faire de chaque concert un petit bijou finement ciselé, intelligemment pensée qui met notre cerveau au défi à chaque fois en lui donnant du Beethoven et du Reich, du Mozart et du Fujikura, du Maramaré et du Courtag, et ça ce sera joué par l'ensemble Tarentule. Ce soir à 18h, c'est à la chapelle du Grand Séminaire à Saint-Flour dans le Cantal, on y entendra du Steve Reich, Clapping Music, qui nous sert d'ailleurs d'indicatif ici sur France Musique entre les émissions. Je vous propose d'écouter alors une version particulière qui devrait plaire aux organisateurs du festival Hirondelle, un mélange entre Clapping Music de Steve Reich du 20e siècle et ce « La face est pâle » de Guillaume Dufay, musique du XVe siècle. On n'entend pas si souvent de la guimbarde sur France Musique, cette petite lamelle métallique qu'on met dans la bouche. Steve Reich et Guillaume Dufay par l'ensemble Lauten Compagnie, dirigé par Wolfgang Katschner. Une dernière étape avant la carte postale envoyée depuis les jardins de l'abbaye de Royaumont, la Roque d'Anthéron. On m'a annoncé une bonne nouvelle ce matin, il resterait encore des places pour le récital d'Adam Laloum à l'auditorium du parc du château de Florent, avec un S, ce soir à 19h, donc foncez, Adam Laloum dans la musique de Brahms et de Franz Schubert.
Thank you.
Le menuetto de la 18e sonate pour piano en sol majeur Deutsch 897, dite Fantaisie de Franz Schubert, par Adam Laloum, qui sera en concert ce soir à 19h à la Roque d'Anteron. Et il reste encore des places. France Musique, il est 12h48, l'heure de suivre le guide. Nous avons reçu une petite carte postale de Jean-Marc Wurtz, directeur artistique du programme Voix Nouvelle à la Fondation Royaumont. Vous pouvez retrouver tout le calendrier des événements de cette Académie Voix Nouvelle 2021 sur notre page de l'agenda de l'été sur francemusique.fr. Jean-Marc Wurtz, une journée à Royaumont commence de bon matin, dès l'ouverture. Profitez de la fraîcheur du jardin. Calez votre éveil avec celui des plantes. Vos sens sont sollicités. La promenade rêverie peut commencer. Potager, grotte, jardin des neufs carrés, grande serre. Les espaces extérieurs alternent avec harmonie. La végétation semble s'étaler sans contrainte. Ses couleurs se marient harmonieusement avec les bâtiments de l'abbaye. Les senteurs du potager vous enveloppent dans la rosée qui s'évanouit doucement. Quand vous êtes prêt, pénétrez dans le monument. Ces grands espaces sont dénudés, vos pas y résonnent. Les hautes voûtes cisterciennes reflètent la lumière de midi et jouent subtilement avec elles. Une pause au cloître, assis sur le muret, écoutez le bruit de l'eau qui commente inlassablement le défilé des heures, ponctué par la résonance solitaire et immuable de la cloche. Au jardin, les sons du carré magique se mêlent à ceux du vent. Les visiteurs déambulent, on perçoit des éclats de voix, les rumeurs des groupes qui suivent les visites de l'après-midi. Puis soudain, au loin, une chanteuse vocalise, l'orgue vrombit. Columba Aspexit d'Hildegard von Bingen par Emma Kirkby et les Gothic Voices de Christopher Page. Pardon, France Musique, il est 12h52, embarquement immédiat vers Budapest. Nous voici au Festival des Cultures Juives à Budapest qui va faire résonner les rues de Budapest du 22 au 30 août. Pour sa 23e édition, le festival se tourne vers la culture et la musique juives. klezmer particulièrement, avec notamment des concerts donnés dans la grande synagogue de Budapest, la deuxième plus grande d'Europe. On a entendu musicalement un changement progressif dans la musique klezmer. C'est une musique qui a longtemps mis le violon à l'honneur, avant de le remplacer par la clarinette, plus apte peut-être à imiter le son du shofar, instrument utilisé lors de rituels israélites. Fredonnant en hébreu par Giora Feidman. La clarinette, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les symphonies de Gustav Mahler, mais il y a un autre compositeur qui l'utilise, la clarinette, beaucoup plus ponctuellement. Son grand-père était un des philosophes de la Haskalah, mouvement de pensée juif des 18e et 19e siècles, Moïse Mendelssohn. Je veux parler donc de Félix Mendelssohn. On retrouve la clarinette dans la marche funèbre, extraite du Songe d'une nuit d'été. Je vous la propose dans cet enregistrement de 2018 par l'orchestre du Festival de Budapest, dirigé par Ivan Fischer. Et à la différence des autres versions, là, le clarinettiste joue à fond la carte de la clarinette klezmer, un son plaintif qui n'hésite pas à pousser dans les aigus. Thank you. C'est avec le songe d'une nuit d'été que nous terminons cette émission réalisée par David Travailleur qui avait avec lui à la technique Maxime de Peretti et U2 Diego Aclopes. Cette émission a été préparée par Nelly Portal. Un grand merci également à Alice Escrio qui a conçu la rubrique Embarquement immédiat vers Budapest d'aujourd'hui. Qui a dit ce Chopin est un ange, sa bonté, sa tendresse et sa patience m'inquiètent quelquefois? Eh bien, c'était George Sand. Bravo à tous les gagnants qui pourront écouter Maxence Pilchin à la Trinité sur mer. Je vous retrouve quant à moi demain à midi. À réécouter sur francemusique.fr.